j'étais paysan, tu serais paysanne. Il est joli ce mot, tu trouves pas? Parfois mes gros sabots t'écrasent une larme, mais tu me calmes, tu m'en veux pas. Si j'étais paysan, tu serais paysanne. J'ai trouvé ce mot sur mes pas. Tu germais dans mon sillon, graine de sésame, mon grain de peau, mon pain, ma foi. Je sème la bourre, sarc les fans, un sacré terroir, sol ingrat. Toi seul berce dans tes bras ma charrue et sa vieille lame. Paysan, tu serais paysanne. Il te va bien ce mot, il m'envahit. Un pays sans paysan n'est pas un pays. Je ne serai pas sans ma paysanne.
Jehan, le chanteur Jehan, interprétait un texte de Claude Nougaro, Paysan, paysanne. Et pourquoi cette chanson? Pour amorcer la 281e édition des Petits Tas dans le Mou sur Radio Canu, la plus belle des radios. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes réellement, et pas seulement selon le calendrier du Père Ubu, concocté par Alfred Jarry, la Saint-Mesmin. Et Mesmin, c'est le patron de l'agriculture intensive. Et oui, il faut savoir, et pourtant, c'est un garçon qui est né au 5e siècle à Verdun, qui s'appelle maintenant Verdun. Et bien, Mesmin, c'est aussi, ça a donné Maximin, enfin, ça vient peut-être de Maximin, Mesmin, Maximin, on vous fait bonne fête. Merci de nous avoir donné cette idée de l'agriculture intensive au 5e siècle. Et il a été, parce que, en fin de compte, il était tellement pieux, évidemment, qu'il a été repéré par l'évêque Eusèbe, qui habitait à Orléans. Et il a dit, mais viens donc m'assister là par là, vers Orléans, et puis on va essayer de faire un truc, c'est qu'il y a beaucoup de pauvres autour d'Orléans, et donc on va essayer de cultiver à fond pour nourrir tous ces pauvres. Et en fait, même les ermites, tout le monde s'en allait, venez voir Mesmin avec ses techniques d'agriculture tout à fait neuves pour l'époque, je rappelle, le 5e siècle, et aussi pour écouter ses lumières et ses sermons qui étaient magnifiques, car il maniait le verbe aussi bien que le sillon. Et alors, ce fut culture intensive pour les pauvres. Et les pauvres, les pauvres, ils sont toujours ce qu'ils sont, les pauvres. Ils disent, miracle, miracle, c'est la multiplication des petits pains, etc. Alors qu'en fait, ils étaient en train de tout raser la terre et tout de créer, avec les moyens de l'époque, bien sûr, des nouvelles espèces, des nouveaux greffages, etc. pour nourrir, soi-disant, les pauvres. Et puis derrière, on s'est rendu compte qu'on pouvait en tirer du profit. On en a les conséquences encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pendant une heure, dans les sillons de nos habituels rubriques, on va essayer de vous montrer quelques expériences où quand ce que nous croyons acquis s'écroule, quand on a vraiment un excès de zèle. Rubrique Alpha, 1898, l'extrême gauche divisée. Où est-il? Mais où est-il? Main coupée ne reconnaît plus les rues qu'il emprunte. S'est-il quelquefois endormi? Il entend le typographe qui crache ses caractères d'imprimerie, tous les petits morceaux de plomb vomis dans le ruisseau. Quel jour sommes-nous? La terre s'est remise à tourner, mais Main Coupée n'a pas trouvé Mario. Où est-il? Où est-il donc? Il frappe à une porte. Personne. Il frappe à une porte. Personne. Il sait bien qu'elle commence toujours par l'œil de bœuf. Prudence. Il le bouche de sa main valide. Il frappe à cette porte. De sa main absente. Personne. Il frappe à cette porte. Voilà qu'un doute lui vient de l'escalier, toujours plus branlant. L'odeur de l'escalier, une odeur. Il frappe très vite plusieurs coups. Le quartier était bouclé. Où avait-il la tête? Un coup de Mario? On ne l'a pas prévenu. Toutes ces pancartes, nouvelle méthode, qu'il y avait en bas? Où avait-il la tête? Le quartier doit être bouclé, c'est une évidence. Il n'a rien vu tout à l'heure, maintenant... Il voit. Il a franchi quelques barricades d'écrous et d'édredons, de plâtre et de madriers, mais maintenant ça lui remonte de l'escalier. Il frappe à la porte. Vite, vite! Carlotta! Sa voix lui rappelle un autre cri. La terre ne tourne plus. À ses oreilles, comme de l'émail qui crisse, ses oreilles comme sous l'eau, et un goût de ferraille, des lentilles ou quoi. Il n'a pas mangé de lentilles. Il n'a pas le temps de frapper encore. L'image lui vient de l'escalier, encore plus branlant, les volets, les murs, les éclats de verre en bas qu'il esquivait. Tout était cassé. Il n'a rien vu. Maintenant il voit! Il voit bien l'odeur, surtout. Il frappe. Nom de Dieu. Il veut dévaler, mais il n'y a plus d'escalier. Il lui a semblé que l'œil de bœuf dévorait son doigt, éclatait son doigt, que le bout de son doigt était une petite grenade qui venait de fleurir. L'immeuble entier lui tombe des mains, à Béchet, l'homme à la main coupée. Il s'accroche au squelette de la rampe, cette rampe qui dévale vers le palier. Il voit bien l'œil qui tombe sur lui à l'oblique. Il ramène ses genoux devant son visage, mais la porte s'est détachée. Il crie encore « Carlotta !» Ses jambes pendent maintenant dans le vide. Il est sous la porte. Mais voilà que par-dessus s'effondrent des blocs entiers, parpaings, linteaux, du métal aussi, du plâtras. Une poutre énorme se déchire par le centre, dans le sens du bois, et l'arête pointue vient transpercer la porte. L'œil de bœuf veut dévaler l'escalier, mais il n'y a plus d'escalier, on l'a dit. Alors l'œil de bœuf saute le pas. Dernier bruit audible, la bulle de verre sur une plaque de fourneau en bas, avant que le fracas devienne épouvantable et que tout soit fini. Plus fini, plus vite que l'agonie de Béchet, l'homme à la main manquante. N'en parlons plus, ce n'est qu'un attentat de plus.
Il y a un homme dedans! Il y a un homme!
On n'a jamais retrouvé l'auteur de ce cri séditieux. Dans la journée, il y avait un enfant qui jouait avec un crâne de chat, et il faut espérer que ce ne soit pas la victime. Les témoignages penchent cependant en faveur d'une voix d'homme mûr. Un ouvrier du chantier ? Rien. Une illusion sonore. Cette voix sonnait tellement faux parmi l'expiration des gravats et des poussières qui reprenaient le chemin de la terre après leur petite gloire dans leur vocation de figurer un bâtiment de la rue Fourcroy. La rue Fourcroy n'est plus qu'une odeur de poudre et de pierraille en suspension. On pourra se demander s'il y eut un jour des habitants. Rien ne le prouve. Le bois peut simplement craquer dans la solitude. En attendant, nous avons la joie de vous inviter au grand meeting entre socialistes et anarchistes, salle Laroche, rue de l'Arquebuse à Lyon, seule salle de la rive du reste gauche qui s'abaisse à nous accueillir. Ce sera le 1er juillet 1898, prenez date. Venez vous exprimer sur le nationalisme de Rochefort, l'antisémitisme de Drummond, l'abbé Garnier et le socialisme chrétien. Que s'est-il passé le 1er juillet 1898, salle Laroche à 21h ? Le citoyen Marestan, un anarchiste vêtu en bourgeois du meilleur monde, a ouvert la séance dans le but de faire élire le bureau provisoire. Les assistants se sont trouvés partagés en deux camps à peu près égaux. À gauche, les anarchistes et les internationalistes, à droite, les blanquistes. Tous ont hurlé un nom de candidat pour la présidence et, chose curieuse, les deux citoyens concernés, Giray, le blanquiste, et Borias, l'anarchiste, se sont crus élus et sont montés à la tribune de concert. Ce fut le début de ce tumulte épouvantable. Giray se présente-t-il ? Il est hué par la moitié de la salle. Même fortune pour le nommer Borias. Dès lors, on organise le boucan. Conspué Bonnard ! Chante-t-on en chœur du côté des internationalistes. Bonnard, c'est le seul conseiller municipal révolutionnaire, blanquiste en l'occurrence. Du côté blanquiste, on répond vigoureusement par des cris et des huées. Mais de ce cri blanquiste se détache... Conspué Zola. Le tumulte parvient à son comble. Au bout d'une canne, les blanquistes arborent un petit drapeau rouge et l'acclament. Les internationalistes leur répondent en hissant à leur tour un drapeau noir. Ils entonnent l'international. Les injures fusent, vives, nombreuses, cinglantes. On ne constate cependant pas de bagarre. Les deux parties s'observent en ouvrant leur bouche, mais ils ne se touchent point. À ce moment, un individu qui se trouve sur l'estrade, à la place des deux présidents éclipsés, s'empare du drapeau noir et l'agite. Monsieur Moine Picard, commissaire de police, ceint de son écharpe, va vers le porteur du drapeau et s'empare de l'emblème séditieux. On parlemente un instant pour qu'il restitue le drapeau noir saisi. L'estrade est envahie. Le commissaire ne sait plus où donner de la tête. Enfin, Borias, se réinstituant président, hurle que « la séance est levée ». Aussitôt, l'assemblée se retire lentement, sans s'opposer aux agents survenus d'un coup dans la salle. Elle conspuait en messe basse, comme un écho de la cohue précédente. Bref, je vous raconte ça. Pour témoigner qu'il n'y a eu aucun incident notable, salle Laroche, ce 1er juillet 1898. À peine deux ou trois arrestations pour refus de circuler. En vérité, ça avait commencé à 21h, et à 22h, tout était fini, tout était calme. rubrique bêta. Comme chaque semaine hebdomadaire, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif de votre poste à galène et vous orienter, si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous, donnant sur ce ciel presque absolument bouché de lions. Et il y a peu de chances de voir apparaître la navette spéciale de Mister Milouz et de Miss Cosmos.
Couche nuageuse, et puis vos particules élémentaires en suspension, et nous avons réussi à atterrir sans trop de dommages dans les studios de Radio Canette, comme à peu près toutes les semaines hebdomadaires. Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on voulait vous dire qu'on a constaté une chose depuis justement la dernière semaine hebdomadaire, c'est que mieux vaut annihiler qu'être sceptique. Oui, c'est une grande pensée philosophique qu'on a eue, on a bien réfléchi avec Mister Milouz. Voilà, c'est un enseignement qui nous vient du fragment Yankee sur le météorite. Mieux vaut annuler qu'être sceptique. Les chercheurs ne font pas la loi sur le météorite. Ah, ce qu'on a vu, hein, au moyen de notre télescope, de notre constellation des Pénates, depuis la dernière semaine hebdomadaire avec Mister Milouz. Et surtout quand ils alertent sur votre climat. Et les Yankees vont l'apprendre à leurs dépens. Et les futurs dirigeants passent par un questionnaire anodin qui circule au ministère.
Qui que c'est dans ce bousin qui a œuvré pour le développement durable ces dernières années?
Ah ben ça, c'est un questionnaire, une question intéressante. Hein, c'est... Eh oui, c'est le contenu du questionnaire, si. Notre télescope en témoigne. Mais non, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. On aime les scientifiques sur le fragment Yankee, mais pas n'importe lesquels.
Et d'abord, un scientifique, est-ce que ça se mêle de politique, Mister Milouz?
Alors, lorsqu'il y a un changement d'administration, les climato-sceptiques se frottent les mains. Comme secrétaire d'État, vous retrouverez des patrons du groupe pétrolier, des fanatiques des énergies fossiles qui se moquent bien des générations qui les suivront. À quoi sert un ministère de l'énergie, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Canette? La protection de l'environnement, depuis quand serait-elle rentable? De quoi l'effet de serre? Ce sont ceux qui en parlent qui se livrent au harcèlement. Qu'ils se taisent et retrouvent un emploi digne de ce nom. L'activité humaine tend tout entière vers la productivité. Jusque-là, on a fait marcher les Yankees la tête à l'envers. Scientifique. Munissez-vous de bons avocats. Ne vous laissez pas intimider et préservez vos messages personnels. Et puis, La NASA.
Oh ben, la NASA.
Mais quel gaspillage! Pourquoi observer de là-haut l'évolution du météorite comme Mr. Milouz et moi-même, Miss Cosmos, chaque semaine hebdomadaire de notre constellation des Pénates au moyen de notre télescope?
La NASA. Mais d'abord, il y a trop de recherches, trop d'interrogations. L'homme finit par tituber.
N'est-ce pas, Mr. Milouz?
Déjà, les données stockées quittent le fragment Yankee. Et c'est la fuite des cerveaux, hein, comme vous dites par chez vous. Celles qui resteront seront tronquées ou modifiées. Et cela ne ça s'est déjà passé, hein. Ça s'est déjà passé par le passé et par le présent, hein, sur le météorite. Et cela ne concerne pas que le climat, hein, à ce qu'on a vu de notre constellation des Pénates au moyen de notre télescope avec Mr. Milouz.
Oui, mais là-bas, les Yankees, ils ont voté pour l'abus de pouvoir.
Eh ben, il va les réchauffer, pour sûr, le super Yankee, en brûlant les documents nuisibles à la productivité du fragment.
Et puis, si les hivers sont moins rudes, qui s'en plaindra là-bas? Ah oui, c'est une mesure humanitaire, hein, pour les sans-domicile.
Eh ben, tout le monde s'y retrouve. Bah oui, si les hivers sont moins rudes. D'ailleurs,
il fait froid, là, sur votre météorite, là, sur le fragment France.
Est-ce pour cela que je commence à claquer des dents?
Oui, il fait froid, c'est vrai. Dites, Mr. Milouz, si l'on regagnait notre constellation des Pénates. Faut réfléchir, hein, à cette philosophie Yankee, hein. Mieux vaut annihiler qu'être sceptique. On va essayer de faire redémarrer cette navette spéciale.
À la prochaine semaine hebdomadaire, si tout se passe bien.
un mix de...
Assis en tailleur, voilà des heures que je médite. Sur ma montagne et je n'arrive pas à faire le vide. Je focalise sur le diaphragme, j'augmente mon énergie. Réveille la bête qui dans mon âme est tapis. Je viens de terminer ma préparation mentale. Ils vont goûter à l'incomparable style du Serval. Le souffle des quatre vents décuple ma puissance. De longs mois de travail ont exacerbé mes sens. Je crée un déséquilibre interne volontairement, afin que le côté yang soit le dominant. Les pieds solidement ancrés dans la terre, je tire les dernières forces de la nature mère nourricière. Je mène les troupes au combat pour défaire les guerriers en contreplaqué de l'école du micro en bois. Notre bannière flotte au sommet du tsunami, annonçant fièrement la charge du micro d'argent. En plein cœur de la bataille, je sème la terreur quand je frappe des stockés de taille. Je sens l'esprit du félin m'envahir à ce stade. Seul le sang me procure du plaisir, mes griffes gravent les couleurs de l'empire plus grand que celui d'Alexandre dont je suis le défenseur.
Larmoyant, criant. En plus, une bouteille de tequila, une bouteille de...
Mon sabre scintille, je médite, accroupi sous les branches d'un seul pleur. Je défends l'honneur de mon école fils. Les troisième scrute le terrain, la tactique à pratiquer pour balayer l'ennemi statique physiquement. Les déplacements furtifs de l'essence de mon esprit élaborent les bases de ma stratégie. Donc je me dresse dans des cliquetis bardés d'armes. J'ai une armée entière sous le charme, prête à mourir à la gloire de mon étendard. J'ai rassemblé la clique des valeureux guerriers barbares d'ardard. J'ai envoyé paître les lettres pour chasser les traîtres, selon l'enseignement de mes maîtres. Sans relâche, je crache des cendres et poursuivrai les massacres jusqu'à ce que le nom d'AKH soit légende. Car le soldat guerrier alpha est à droit et lance l'assaut là sur l'école du micro en bois. La bataille est débutée, tiens ce coup vient d'un expert à la guerre, vaillant praticien des arts martiens. Délégué pour mettre terme à ces horreurs, tel est mon labeur, tu sais de qui je défends l'honneur.
Dangerous, 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 dangerous. I am dangerous, 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 dangerous. I am dangerous, 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 dangerous. I am dangerous, 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 dangerous.
Je pose du verbe sur un papier, compose des textes et des scandes. Oui, ma langue est déliée, mon délié de parler haut. Relater ce que mes consorts n'exprimeront jamais dans un micro. Les camps sont marqués, nous sommes simples lecteurs. Mais rien n'empêche d'apporter plus de terreur dans leurs erreurs. Je pensais même pas les effleurer, mais j'ai dû déchanter quand le juge a voulu me convoquer. Ce n'était pas la première fois pour un groupe de rap que la censure frappe et les citations tapent. Va donc, je me suis dit, le texte est cool, y'a pas de info. J'étais devenu l'ennemi public des ascétiques. C'était clair, les hauts placés voulaient mon trophée. Un mois après, ces endophés bloquaient mon dossier. Ce que le cinéma se permet, la télé, les livres et les magazines, pour nous c'est prohibé. Incitation à la violence, c'est comme si pour chaque meurtre on inculpait Jack Balance. J'ai des problèmes de communication, les RG écoutent toutes mes conversations, j'en ai des frissons.
ça perturbe ma vie. Ma haine grandit chaque fois qu'une minute écrit à déblatérer des mensonges malsains. Demander à ma mère si son fils est un assassin. Il déclenche ma revanche à leurs dépens. Si je pouvais vivre loin des serpents, je croyais être un type sympa, un père exemplaire merveilleux pour eux. Je suis dangereux.
I am dangerous, dangerous.
On m'avait dit qu'un jour je serais classé fiché, tout simplement pour avoir exprimé mes idées, aborder des sujets jugés tabous, mis sur papier tout ce qu'il se passe autour de nous. Je pensais vivre dans un pays libre, naïf. J'ai compris qu'indésirables sont les esprits non passifs. En refusant d'être un mouton, de rentrer dans le troupeau, de fermer les yeux et de tourner le dos au format dans lequel ils tentèrent de me faire entrer, je me suis vu qualifié de rebelle d'une société hypocrite où certains ont tant de pouvoir qu'en toute impunité, ils peuvent cracher sur l'histoire. Ce noir constat m'oblige à prendre des risques, à libérer ma pensée, à devenir un journaliste, un fugitif, un dénonciateur, un haut-parleur trop souvent placé au centre du viseur de ceux qui se croient à l'abri de l'œil avisé de gens à l'affût et qui ne laissent rien passer. La liberté d'expression, vaste plaisanterie, l'écart est grand entre ce qui s'entend et ce qui est dit. J'énonce des faits, bien que ça me coûte des photos sur des murs, des téléphones, sur table d'écoute. Me reproche de crier trop fort ce que je pense, de mettre un miroir en face des gens, ça, ça les dérange. Et si le blanc représente la pureté aujourd'hui, même en plein soleil, tous les chats sont gris. Je voudrais faire le bien et rien d'autre, mais pour eux, je suis un mouton galeux, un mec dangereux.
I am dangerous, dangerous, dangerous.
On remercie l'administration française d'assurer la diffusion des radios associatives telles que Radio Canu, la plus belle des radios, et de faire des petites coupures, parce que comme ça, enfin, ça réveille l'auditeur, n'est-ce pas, en se disant « Oh, il n'y a plus rien !» Et puis maintenant, ça reprend. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, nous fêtons la productivité. Alors aujourd'hui, il faut être productif, jusqu'à ce soir minuit, et voire davantage. Productif, mais attention, parce que souvent, ce que nous croyons acquis s'écroule quand on fait trop d'excès de zèle. Eh ben, on va pas se laisser rogner les ailes, on va passer à la rubrique Gamma. Ce sort incertain qui m'ébranle. Il arrive un âge où le jouet n'est plus à l'extérieur de soi. En général, cela se produit aux alentours de 12 ans, quel que soit le quartier où vous habitez. Chez l'homme, c'est un jouet qui augmente de volume et ne vous demande pas votre envie quand cela lui prend. Il vous demande de l'utiliser, de continuer à jouer impunément, comme avant. Il ne manque pas d'arguments pour vous suggérer des délices nouveaux. Seulement, ce jouet n'est pas muni d'un mode d'emploi. C'est un jouet qui prend l'initiative. C'est lui qui se met à jouer avec vous. Vous êtes son jouet. Voilà qui est nouveau. Voilà qui est nouveau. Arrive un profond désarroi, issu à la fois de l'humiliation et de l'impatience. Détruira-t-on ce jouet, comme certains l'ont prescrit ? Non. Le résultat est toujours la capitulation. On cède aux jouets insubordonnés, on prête l'oreille à ses secrets. Et on attend. Que va-t-il se passer? Où va-t-il m'emmener? On l'aura à la longue, à force de pénétrer ses désirs. Calmement. Car les goûts du jouet sont précis. Ils émanent d'une mécanique préméditée depuis la naissance. D'ailleurs, il parle d'enfance sur un ton mielleux.
Souviens-toi quand tu te promenais tout nu. Tu regardais les autres avec avidité, n'est-ce pas?
Si, rappelle-toi.
C'était au bord de la mer, une équipe de nageurs aux environs de Pornichet.
Ceux qui étaient basanés retenaient particulièrement ton regard. Il y en a même un de la bande qui a épousé ta cousine.
Souviens-toi maintenant, mon garçon.
Qu'est-ce qui te plaît dans les romans d'aventure?
La poésie? Elle a bon dos, la poésie. Non, tu recherches la sensualité. Je l'ai toujours su. L'esthétique n'est qu'un prétexte.
Et mon jouet, il levait sa tête d'ahurie. Il continuait en me débitant des propos sur la mort sous forme de mares de sang dans lesquelles se vautraient des chairs musclées.
Non, je ne me suiciderai pas. Non, ça va pas, non. D'autres me suicideront.
La mort est attrayante quand elle se présente par où on ne l'attend pas. Le crash d'un avion, la tête qui tombe toute seule sur le bureau, une rafale qui ne m'était pas destinée, un accident de voiture, une maladie brutale. Je suis déjà sur la liste, inutile de signer. Quand vous êtes condamné à mort, à quoi bon se suicider?
Il n'y a pas de saison pour le suicide.
Ce sera une faveur pour moi que d'être liquidé d'une façon ou d'une autre.
Ah, oh, c'est une façon de vous dire que je n'ai pas envie de vous quitter, ni de jeter mon jouet aux orties.
Pourtant, lorsqu'on traverse les quartiers déshérités et qu'on n'est plus capable de composer une chanson, on rêve de s'asseoir au bord d'une piscine. Pourquoi une piscine? On a envie de redevenir tout nu et tout sale en écoutant une guitare tzigane. Et soudain, la façade de l'hôtel Hilton, avec ses suites qui serpentent à l'intérieur, avec des clients qui méprisent le personnel ou à tout le moins ne le regardent pas. Je croise un journaliste poli qui fait une enquête sur les cités et je rote à son passage. Si je me drogue, je veux que ce soit sans surveillance médicale. Je suis solidaire des peuples qui n'ont plus de terre. Ah, maintenant passe la voiture de luxe avec ses vitres fumées. Elle circule entre deux aéroports. Que les passagers perdent l'usage des mots. Que les mots leur remontent à la gorge et les étranglent. Je reviens dans le pauvre quartier. Mes pas m'y portent sans que je le leur commande. Que de mensonges ai-je proféré? Et si longtemps? Si seulement tout cela finissait.
Et voici venir notre ultime rubrique. La rubrique Baba Yaga. Celle que les chamans appellent, ce qu'ils sont drôles, ces occidentaux. Au cours de cette nouvelle rubrique, bien qu'elle porte le nom des précédentes, nous allons vous transmettre quelques expériences du père Niccolò Sporgersi, qui a mené une série d'opérations à titre d'exemple méthodologique, prophylactique et commerciaux. Pour commencer, l'opération, comme son étymologie l'indique, operante, operari, implique une action. Elle s'oppose à la passivité, patior, subir, qui a donné passion. Il est nécessaire de définir au préalable un champ, un territoire où se mènera notre action, enfin celle du père Niccolò Sporgersi. Ceci à titre indicatif, afin que cette rubrique ne soit pas purement spéculative, mais vous inspire, chères auditrices, chers auditeurs, des projets d'avenir. Et nous commencerons cette nouvelle rubrique par une remarquable tentative que le père Niccolò Sporgersi a menée en Zambie. Oui, ce pays d'Afrique du Sud. Elle est démonstrative de la méthode antinomique et de ses risques, les risques adjacents. Voilà. Bon. Nous sommes donc en Afrique australe, pays recouvert par la savane, où l'espérance de vie à l'heure où je vous parle, 13h48, est de 50 ans. Cette région est en proie immémoriale au dysfonctionnement cardiaque et aux angines de poitrine. Cependant, pour une intervention médicale efficace, le père Niccolò Sporgersi s'est dit, se rendu compte qu'il fallait tenir compte des traditions de sorcellerie et autres pratiques incantatoires du territoire. Elles sont largement en usage et il est inutile de les contester. Voilà l'idée. Le père Niccolò Sporgersi a envoyé sur le territoire une batterie de médecins patentés munis d'un manche de bois de santal sur lequel était ajustée une queue de vache vernaculaire. C'est une ruse, hein, ben, vous allez comprendre par la suite. Les praticiens allaient par les villages avec cet accessoire, un bois de santal et queue de vache, en scandant « Pour vos poumons! Pour votre cœur! Pour vos poumons! Pour votre cœur! Ouais, » Un premier malade a été poussé sur la place. L'équipe lui a demandé de se mettre torse nu. Puis c'était vraiment... l'équipe, elle avait le trac. La queue de vache doit caresser la partie correspondante à l'organe affecté, comme lorsqu'on s'applique à repeindre les montants de sa fenêtre, vous voyez, les poils de la bête en rapport étroit avec la peau du patient. Puis, d'un geste sec et précis, le praticien retourne le manche dans sa direction afin d'extraire le mal du patient et de le renvoyer sur le dit praticien, désenvoûtant en quelque sorte l'individu souffrant. Il est important que l'opération s'effectue en public. Lorsque l'inefficacité de la méthode aura été clairement perçue, l'équipe soignante, dûment fournie en matériel, n'aura aucune peine à dénoncer la supercherie et à imposer la médecine requise. Et... Alors voilà, bon, en fait, voilà l'histoire. Ça s'est très mal passé pour les faux chamans qui devaient faire place nette afin que les vrais médecins s'attaquent aux angines de poitrine et à la faiblesse cardiaque endémique de la Zambie. Enfin, je dis ça s'est mal passé, mais pas pour tout le monde, étant donné que l'expédition a réveillé des vocations.
L'équipe du père Niccolò Sporgersi aurait dû s'entourer d'ethnologues compétents et se faire accompagner de psychologues à leur propre intention. Avoir repéré des pratiques incantatoires particulières n'autorise personne à se pointer dans un pays pour singer la chorégraphie des sorciers qui seront toujours bien plus adroits que les intervenants occidentaux. L'équipe du père Niccolò Sporgersi était une équipe de néophytes. Ce monde était nouveau pour eux, inattendu. Ils étaient proches du désarroi, et je crois que c'est pour cela qu'ils se sont accrochés à leur rôle. Ils se bouchaient les yeux et les oreilles. Quelle force auraient-ils trouvé pour parer à la puissance des impressions d'Afrique ? Parfois autour d'eux se faisaient entendre des cris gutturaux, tandis qu'ils déambulaient. Ils déambulaient, comme si de rien n'était, lançant leurs appels fantomatiques « Pour vos poumons, pour votre cœur !» Les émotions les ballottaient. En réalité, ils n'étaient pas en état d'analyser les réactions. Ils n'étaient pas lucides. Leur structure mentale était en pleine résistance, alors que le fleuve les emportait. Ah, il y a certes des puissances dans ce pays. Elles agissent de l'intérieur de soi. Et ils auraient dû renoncer, reprendre depuis le début sur la base d'une bonne procédure. Au lieu de ça, ils se persuadaient de l'impulsion correcte qu'ils allaient donner à la médecine africaine. Et personne dans l'équipe n'a exprimé de doute. Ils étaient la proie d'une névrose collective, d'où le résultat, un transfert plutôt réussi. L'équipe médicale, formée à la dialectique, a donc débarqué avec ses queues de vache cueillies sur le territoire. Elle se croyait crédible, elle n'était que pitoyable. Aucun autochtone ne s'est laissé prendre à l'imitation du rituel. Le pire, c'est que certains des agents ont cru dans l'efficacité de leur comédie. Des écrits, expédiés de je ne sais où, sont venus appuyer leur naïveté. D'ailleurs, dans leurs attributs, ils ont senti, comme ils disaient, monter une force. Ils allaient, selon la méthode traditionnelle, booster les cœurs et les poumons de l'Afrique. Le premier patient qui s'est présenté au village a bombé son torse nu en riant. Personne n'y a vu un indice de moquerie. La cérémonie a commencé, les dupes n'étaient pas ce qu'on croyait. Le villageois se tortillait sous les chatouilles de la queue de vache et s'inclinait à chaque geste exagéré du soi-disant praticien. Le mal s'en va ! Le mal est parti ! Le mal s'en va ! Le mal est parti ! Il hurlait cela sur un ton de reconnaissance. Et la communauté autour reprenait en cœur. Le mal s'en va ! Le mal est parti ! En frappant des pieds et des mains. Soudain, un ancien s'avança vers le membre de notre équipe en transe.
Incapable, tu l'as guéri, mais tu t'es infesté. Tu as pris sa part. Et maintenant, tu vas aller voir notre docteur du village et il va te sortir cela.
Père Niccolò Sporgersi, fiasco total. Il a donné du travail au chaman local, puis il est reparti, et je vais vous le dire entre nous, il a brûlé les archives, ainsi que toutes les notes personnelles de toute sa délégation. Bravo!
C'était The Warm Heart of Africa, d'un groupe qui s'appelle The Very Best, mais qui ne vient pas de Zambie, mais d'un petit état voisin dont on parle encore moins, du genre, on ne parle pas beaucoup de la Zambie, mais alors, c'est l'état du Malawi, donc, qu'ils évoquent d'ailleurs dans leur chanson. Et voilà, The Warm Heart of Africa. Cela pour continuer à vous engager jusqu'à minuit ce soir, allez, productivisme, productivité, produisez, produisez, ne comptez pas votre temps, allez-y, allez-y. Par contre, quand il sera minuit une, il faudra bien, j'arrête tout, hein, mais jusqu'à minuit, allez, allez, aujourd'hui, on vous engage à être productif, c'est la Saint-Mesmin, patron de l'agriculture intensive, qui se développe d'une façon remarquable, d'ailleurs, dans presque tous les pays d'Afrique. Bien ou mal, à vous d'en juger. Et nous, on va vous laisser avec la bande passante, dite bande continue de Radio Canu, concoctée par un certain nombre d'animateurs avec des goûts éclectiques, comme toutes les émissions que vous pouvez entendre au long de la semaine. Éclectique et néanmoins... belle, voilà. À 17h, vous retrouverez l'émission Intrinsèque, les musicalités gaulo-gauloises cul par-dessus tête. À 18h, c'est les paysans dans la lutte des classes. Peut-être parleront-ils aussi de productivité et de productivisme. Et à 19h, comme chaque semaine, chaque jour de la semaine hebdomadaire, bien sûr, le journal de Radio Canu. Quant à nous, si tout se passe bien, on se retrouvera la prochaine semaine hebdomadaire, comme les autres, le 22 décembre donc, où ce sera la Saint-Honorat, c'est le patron des agoraphobes. Bonne semaine hebdomadaire.
Produisez, allez, produisez, produisez, à fond, à fond, à fond, à fond. Produisez, produisez.
Palingo, Zipano, Zikatele, Zikatele, Malawi Moto.
Is it operator? I don't know. Work the balls, move fast, you should take it slow. Finally, I need someone, tell us when to go. Beatbox imaginary in the show. All your shadows lined up in a row. All your favorite beats, your favorite ELO.